Radio Stabile.
Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Avant, on pointait nos cartes. On faisait nos 8 heures et on rentrait à la maison. Maintenant, nous avons pris notre vie en main. Tout se décide en assemblée générale.
L'aventure de l'entreprise Biomé, c'est en Grèce, vous rappellera peut-être celle des LIP dans les années 70 en France, une entreprise de colle qui fermait, reprise par ses ouvriers pour y fabriquer du savon bio. C'était juste au moment de la crise, nous vous y emmènerons. Tout n'est pas évidemment toujours très rose sous les radars. Et Amélie Perrier, vous l'avez entendu, en Norvège, en Israël et aussi au Burkina, le cinéma en VO et Corinne Pellissier. Elle a vu Rocketman, le biopic sur Elton John qui a été montré à Cannes déjà et qui sort aujourd'hui en salle. Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four avec ses condamnés à mort en Irak sans laver les mains, c'est très vite dit. L'embarras de la France et quel bon processus judiciaire aussi. Avant cela, c'est entre la Chine et les États-Unis que nous allons. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
La guerre commerciale, je ne vous apprends rien, est aussi une guerre psychologique entre les Américains et les Chinois. Une autre étape, une nouvelle étape, une étape de plus a été franchie cette nuit, ce matin, dans l'épisode Huawei contre l'Amérique. Les Chinois ont annoncé qu'ils avaient demandé à un tribunal américain d'annuler l'interdiction faite aux entreprises américaines de vendre des équipements technologiques. C'est la suite d'une plainte déjà déposée au mois de mars. Bonsoir Jean-François Huchet.
Bonsoir.
Vous êtes sinologue, professeur des universités, président de l'INALCO. Notamment, les mots exacts ce matin en conférence de presse du PDG de Huawei. Les voici, et voici ce que les Chinois surtout ont pu entendre chez eux.
Aujourd'hui, Huawei annonce avoir lancé une action en justice contre le gouvernement américain pour contester le caractère anticonstitutionnel de la loi sur la défense nationale NDAA. Les restrictions qui ciblent Huawei sont anticonstitutionnelles. Le Congrès américain a maintes fois échoué à publier les preuves qui justifient ces interdictions contre les produits fabriqués par Huawei. Huawei opère dans 170 pays dans le monde. Huawei a toujours assumé ses responsabilités sérieusement, pacifiquement, pour fournir des équipements en toute sécurité selon les standards internationaux. Huawei n'a pas et n'implantera jamais des black doors, des portes dérobées.
And we'll never implant black doors.
Voilà, c'est ce que les Chinois ont entendu, ce que les Américains évidemment ont entendu aussi. Enfin, on voit bien à qui ce genre de phrase et de déclaration est destinée. Jean-François Huchet, est-ce que cette guerre psychologique dont je parlais, ces phrases du PDG de Huawei, ça veut dire que réellement et rapidement, les Chinois craignent les effets de la politique de Trump quand même ou pas pour Huawei?
Oui, tout à fait. La Chine, et en particulier Huawei, a beaucoup à perdre dans cette guerre commerciale qui s'intensifie, qui se durcit. On voit de part et d'autre des positions de plus en plus dures sur le plan dans les négociations. Et c'est vrai que Huawei pourrait effectivement... souffrir beaucoup, notamment...
Même péricliter intégralement, au
Alors,
fond,
peut-être, ou pas ? Peut-être pas, parce qu'il y a quand même une gamme de produits aujourd'hui de Huawei dans l'infrastructure de télécommunication jusqu'au téléphone portable. Ouais. Et puis, les États-Unis représentent certes un marché important pour les téléphones portables, mais ça fait déjà assez longtemps que Huawei est interdit de marcher sur les infrastructures de télécommunication. Donc, Huawei continue à exister. Ceci étant dit, sur la téléphonie mobile, qui reste quand même un pont très important et en plein développement pour Huawei. Effectivement Huawei d'ici quelques mois ne pouvait pas obtenir les puces les plus sophistiquées pour fabriquer ces téléphones mobiles, ce serait effectivement un gros problème. Et on l'a vu d'ailleurs avec une autre entreprise chinoise ZTE il y a quelques mois qui avait presque arrêté ses lignes de production.
Du coup, l'autre des chacun brandit la menace qu'il a. Est-ce qu'il a vraiment à sa disposition, Pékin, les terres rares, notamment les métaux rares? Est-ce que on peut s'échanger l'un contre l'autre? Est-ce que Pékin peut menacer, ce qu'il a fait à demi-mot, de fermer le robinet? Les terres rares, c'est 90% exploité par la Chine. Et pour rappeler aux gens, c'est ce qui fabrique les téléphones, c'est ce qui fabrique les batteries pour les voitures électriques et toutes ces choses-là.
Certes, il y a quelques années, la Chine avait voulu réorganiser son secteur des terres rares et avait, à un certain moment donné, pratiquement interdit les exportations de terres rares parce qu'elle-même n'en avait pas suffisamment. Et elle a été condamnée à l'OMC pour justement, et l'OMC lui a ordonné de réouvrir les portes des exportations. Et après cet épisode, il y a beaucoup de pays qui, face à ce monopole chinois, ont décidé effectivement soit de trouver des substituts ou soit de réouvrir eux-mêmes des mines, parce que la Chine dispose de 90% de la production actuelle, mais pas des réserves. Et donc, c'est simplement un problème de coût. Afrique, même aux États-Unis, en Australie, il y a effectivement des terres rares. Et donc, on pense qu'il faudrait quelques mois, peut-être quelques années, pour rouvrir des mines, si jamais la Chine décidait effectivement d'avoir une position dure sur ces questions.
Donc, pour l'instant, ça pèse pas, en fait, ou ça peut peser quand même à court terme au fond, ou pas du tout?
Non, je pense que la Chine essaye de trouver des cartes.
Parce que c'est ce que j'allais vous demander. Pour l'instant, on a l'impression que, en fait, y a toutes les cartes sont dans les mains de Trump et dans la main des Américains, ou pas?
Alors, disons que les Américains en ont plus que la Chine. Les Américains ont aussi à perdre. En tout cas, certaines entreprises américaines ont aussi beaucoup à perdre dans la mesure où elles vendent. Elles ont des parts de marché très importantes auprès de certaines entreprises chinoises. Donc, elles vont effectivement perdre si on décide d'un embargo. Ceci étant dit, la Chine a beaucoup plus à perdre que les États-Unis dans cette histoire, à perdre sur le plan technologique, on l'a vu avec Huawei, mais également pour d'autres entreprises.
C'est un bras de fer à celui qui cédera le premier, évidemment. Est-ce que c'est une histoire d'homme, au fond? C'est Trump contre Xi, ou est-ce que ça va beaucoup plus loin que ça?
Ça va beaucoup plus loin. Pendant longtemps, on pourrait dire jusqu'à il y a une dizaine d'années environ, la Chine était plutôt centrée, même si elle exportait beaucoup, sur son marché intérieur. Elle investissait relativement peu à l'extérieur de ses frontières. Or, depuis maintenant une dizaine d'années, la Chine investit à peu près 100 milliards de dollars par an. Et toutes ces questions de réciprocité en matière d'investissement et d'accès au marché se posent de manière de plus en plus cruciale. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une dimension internationale que n'avait pas la Chine il y a environ 10 ans.
Donc, ce n'est pas seulement Trump contre Xi, au fond, mais parce qu'il y a quand même une très grosse personnalité de part et d'autre. Et puis, on a parfois aussi le sentiment que Trump est en train de faire le sale boulot pour d'autres également, non?
Oui. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que l'administration à Washington a vraiment changé par rapport à il y a 10 ans. Et vous voyez que sur cette guerre commerciale, même les démocrates, quelque part, soutiennent l'action de Trump. Donc, ce qui est assez rare pour le signaler. Alors, maintenant, bien sûr...
Obama avait beaucoup menacé, mais jamais vraiment agi, en fait.
Voilà. C'est encore une fois parce que la Chine n'avait pas la dimension qu'elle a aujourd'hui. Et puis, les Chinois s'étaient plutôt habitués que, certes, la question chinoise s'installait au moment des élections américaines. Et puis, qu'une fois que le président était installé, eh bien, on repartait sur un scénario de business as usual. Là, les choses ont changé dans leur dimension et aussi dans la position vraiment forte de l'administration américaine. Et ça a surpris la Chine de voir que ça ne passait pas et qu'en plus, on allait vers un durcissement des négociations commerciales.
Alors, sauf que personne n'ira jusqu'à un point de non-retour, si tant est qu'on sache d'ailleurs ce que c'est le point de non-retour. À quel moment, c'est quoi la barrière, l'horizon, en fait? Est-ce qu'on sait ça ou pas?
Alors, je pense qu'il y a un enjeu très important sur la vérification des accords, parce qu'on était vraiment à deux doigts de signer un accord il y a quelques semaines. Et c'est sur vraiment la vérification des accords, je pense que les choses ont buté. La Chine ne veut pas, et on l'a vu ailleurs d'ailleurs sur les négociations sur le climat par exemple, ne veut pas qu'il y ait par exemple des inspecteurs qui viennent contrôler. Parce que la Chine a l'habitude aussi, il faut le dire, de prendre beaucoup de liberté avec, par moments, un certain nombre de conventions qu'elle signe sur le plan international. Et ça, elle n'en veut pas. Et donc, on va voir maintenant comment les négociations pourraient repartir. Et on voit bien, Huawei joue la carte pour essayer de gagner du temps. Mm-hmm. Et les déclarations, d'ailleurs, du PDG de Huawei sont très libre-échangistes.
Oui, absolument.
Et veut dire, nous, on a besoin des autres aussi.
Elles sont libre-échangistes, elles sont légalistes, puisque on va chercher les tribunaux, en particulier évidemment les tribunaux américains. Est-ce que les craintes sur la 5G sont réellement justifiées, Jean-François Huchet? On a entendu directement le président de Huawei dire mais il n'y a pas de backdoor, c'est-à-dire on n'est pas en train d'essayer de faire de l'entrisme, parce qu'il y a ça aussi évidemment qui est en jeu. Est-ce que c'est réellement justifié cette crainte-là ou pas?
Alors, je suis pas un spécialiste, je suis pas militaire ou du renseignement. Effectivement, beaucoup d'experts le disent, mais que c'est possible de faire. C'est pas uniquement Huawei qui peut le faire. Ce qui inquiète beaucoup, c'est effectivement l'image des
entreprises
chinoises.
Alors, toute 5G passera par les tuyaux chinois.
Alors, bien évidemment, ce qu'on met, quand on pose des tuyaux, on peut effectivement intercepter un certain nombre de choses. Maintenant, c'est l'image des entreprises chinoises qui est derrière cela, avec l'image d'un parti communiste qui, à tout moment, on peut demander à une entreprise publique, bien sûr, mais aussi privée. Et d'ailleurs, on ne connaît pas le statut on ne connaît pas la composition du capital de Huawei, donc on ne sait pas exactement ce que c'est comme entreprise. Donc, ça préoccupe beaucoup à l'étranger.
Derrière tout ça, il y a aussi l'idée de garder la prérogative sur une certaine forme de technologie. Pour l'instant, tout ce qui est informatique, enfin Microsoft, Google, Apple et les autres, tout ça est américain. Donc, c'est aussi garder la mainmise sur cette technologie-là. Est-ce que c'est ça, au fond, le cœur de cette guerre? Et est-ce que les Américains risquent pas de se tirer une balle dans le pied, les Chinois étant parfaitement capables, peut-être, de créer, au fond, leur système d'exploitation de leur côté, puisqu'on leur interdirait d'utiliser les systèmes d'exploitation américains?
Alors, il y a quand même beaucoup d'interactions aujourd'hui dans le monde. On le voit sur les questions technologiques. Et d'ailleurs, le PDG de Huawei l'a rappelé. Il y a la nécessité d'aller, comme on dit, se sourcer en technologie un peu partout dans le monde. Et la coopération, même pour les Américains, est nécessaire sur toute une série de technologies. Donc, penser que les Chinois pourraient, comme à un certain moment donné, complètement s'émanciper.
Créer leur Android, en fait, ou leur iOS.
Ça pourrait
être possible
sur le marché chinois. Et d'ailleurs, ça existe déjà, mais dès qu'ils sortiraient des frontières, dès qu'ils auraient besoin de mettre des choses en anglais, ou ils auraient besoin effectivement d'une coopération sur le plan international. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens, il y a quelques voix qui s'élèvent en Chine pour dire que finalement, M. Xi Jinping est sorti un peu vite de la posture dans laquelle la Chine était il y a depuis 1978, qui était un profil bas sur le plan international, et de ne pas rentrer en confrontation avec les États-Unis et avec l'Europe. Et il y a certaines voix qui disent qu'aujourd'hui, il est empêtré finalement dans une sorte de posture un peu trop voyante et un peu trop confrontationnelle avec les États-Unis, qui est sorti trop tôt finalement par rapport à la force dont il dispose.
C'est pour ça que je vous parlais du combat d'hommes, parce que Xi Jinping a aussi des choses à prouver. Lui, le Xi Jinping, celui qui a fait en sorte de rester le plus longtemps possible au pouvoir, etc. Donc il y a des enjeux qui vont bien au-delà de l'enjeu économique avec les Américains en ce moment.
Tout à fait. Du côté des États-Unis, on voit bien Trump joue effectivement de cette carte, même vis-à-vis de l'Europe, donc ça, vis-à-vis de son électorat. Donc il y a quelque chose. Du côté chinois, il y a effectivement aussi on voit bien que c'est instrumentalisé et qu'il y a la nécessité pour M. Xi Jinping de ne pas apparaître faible vis-à-vis des États-Unis. Il a d'ailleurs été la semaine dernière sur un site pour commémorer l'anniversaire de la Longue Marche, et c'était très symbolique pour dire que la Chine ne pliera pas finalement face aux États-Unis. Il y a un message qu'il envoie aussi au système politique chinois, mais également aux Chinois de manière plus générale.
Et pendant que les Américains, eux, n'y vont pas franco de port non plus, puisqu'on laisse des délais, on attend, etc. Donc il y a une espèce de jeu de face à face quand même, dont on se demande à quel moment l'un mettra un uppercut à l'autre, en fait, au fond.
Oui, je pense que les négociations vont reprendre, qu'il va y avoir, à un certain moment donné, les Chinois vont devoir lâcher du lest, effectivement, sur un certain nombre de questions.
Vous pensez que c'est eux qui vont devoir lâcher les premiers?
Je pense qu'ils sont dans une position de faiblesse. Ils sont un peu surpris, effectivement, de la ténacité des Américains sur ce dossier. Ils ne sont pas habitués, effectivement, à voir les Américains aller aussi loin sur ce type de dossier.
Et nous, qu'est-ce qu'on fait, nous, pendant ce temps? D'abord, nous, l'Europe, est-ce que dans ces cas-là, ça veut dire quelque chose réellement? Est-ce qu'on les regarde tous les deux? Est-ce qu'on risque d'y perdre, nous aussi, à terme? Après tout, oui, on en a aussi chez nous. Hein. Qu'est-ce qu'on fait, nous, pendant ce temps? Est-ce qu'on a un peu notre mot à dire? Ou alors, mais pas du tout, du tout?
Alors, l'Europe a commencé à réagir. Elle n'a pas du tout les mêmes outils en matière de politique industrielle ou de protection de son marché domestique, parce qu'on a...
Et certainement pas collectivement, par ailleurs.
Et pas collectivement, et la Chine le sait. Et donc joue aussi depuis très longtemps, ce n'est pas uniquement depuis le démarrage de cette guerre commerciale, les pays contre les autres. Donc on le voit sur les histoires de route de la soie, l'Italie aujourd'hui a signé, et la France est un peu plus... Voilà. Donc il y a une situation qui est vraiment très très différente. Maintenant, l'Europe peut s'abriter aussi derrière ce que les États-Unis arriveront à négocier avec la Chine sur le plan commercial. Donc il y a effectivement un peu à gagner de la part de l'Europe. Mais il faudra que l'Europe soit unie et aussi change, même si elle a commencé à le faire sur les investissements, par exemple en haute technologie, il y a des demandes de réciprocité beaucoup plus fortes aujourd'hui en Europe, mais ça reste bien en deçà de ce que les Américains font aujourd'hui en matière de protection de leur marché intérieur et de demande vis-à-vis de l'accès au marché intérieur chinois.
Vous nous l'avez déjà un peu dit, Jean-François Huchet, c'est vrai que la Chine a beaucoup à perdre là-dedans, que pour l'instant, en tout cas, c'est plutôt la Chine qui a plus à perdre que les États-Unis telles que les choses se présentent. Mais enfin, quand même, du côté américain, on commence à se poser un certain nombre de questions. Il y a un certain nombre de gens, notamment chez les agriculteurs et autres, qui commencent à mal vivre les restrictions vis-à-vis de la Chine. Encore une fois, là aussi, jusqu'à quel point ça peut finir par handicaper Donald Trump ?
Oui, alors après, il faut voir effectivement certains États qui exportent beaucoup en Chine.
Jusqu'à quel point on se fait du mal à soi-même, en gros.
Tout à fait, il y a toujours, on le voit même sur des entreprises de très haute technologie, par exemple Qualcomm, qui a pratiquement près d'un tiers de son chiffre d'affaires qu'il réalise sur le marché chinois. Il est évident que si jamais il y a une guerre commerciale qui se poursuit pendant trop longtemps, il va y avoir des entreprises qui vont souffrir. Ceci étant dit, quand on fait un petit peu le bilan des entreprises qui font un lobby auprès de Washington pour que les négociations avancent, et puis celles qui estiment que la Chine que les États-Unis ont beaucoup à gagner en avançant encore et en essayant justement de pousser les Chinois dans leur retranchement, on voit bien que pour l'instant on est encore sur une dynamique d'essayer de pousser et d'obtenir le plus de concessions possibles de la part de la Chine.
Voilà, mettre la main sur le fourneau pour voir si c'est chaud, et puis on verra après. On n'a pas fini d'en reparler, de cette guerre commerciale à ricochet. Merci beaucoup de nous avoir éclairé, Jean-François Huchet, sinologue et professeur des universités, président de l'INALCO sur France Inter. Merci.
France Inter, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
La suite, ça se passe en Grèce, avec une aventure qui va vous rappeler peut-être celle des LIP, des ouvriers qui reprennent leur usine de colle pour en faire une usine de savon bio. Ça se passe pile au moment de la crise, c'est pas gagné, loin de là, mais on va vous raconter à quoi ça ressemble sous les radars, et Amélie Perrier qui nous présentera notamment l'homme le plus fort du monde. Le cinéma en VO avec Corinne Pellissier qui a vu Rocketman, réalisé par le même homme que Bohemian Rhapsody. Donc forcément on fera la comparaison entre les deux biopics et aussi les deux hommes. Le monde à l'envers, Jean-Marc Four. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne. Bonsoir à tous.
Ces procès, ces condamnations à mort en Irak, Jean-Marc, c'est sur le processus judiciaire notamment qu'on a envie de s'interroger.
Oui, et Paris est enquiquiné par ces procès, et pour cause, parce que la France n'est pas très cohérente sur ce sujet.
Allez, à tout de suite Jean-Marc. La suite d'Un jour dans le monde, ça passe par Londres avec Little Sims, Offense sur France Inter, c'est dans la playlist.
I'm in the store like I wanna have it, I gotta have it. You are not the toughest or baddest, my pet is the maddest. I'll probably end it with bruises and it's never right of madness.
got 7 lane, even on 10, and still they can't manage. They think I'm a shy one, like Larson's won't flip. But when I switch, they don't wanna say that I'm a b-
with my chest, and I don't care who I offend. I said it with my chest, and I don't care who I offend.
Ah oui, j'avais oublié que ça finissait comme ça. Little Sims, offense sur France Inter. Amélie Perrier est là, sous les radars.
France Inter.
Good evening and welcome.
Je remercie mon papillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Amélie, quand la finance a une morale.
Eh oui, on vous a déjà parlé ici du fonds souverain norvégien, le fonds de placement financier détenu par l'État, qui a fait le choix de se désengager de compagnies pétrolières pour des raisons autant écologiques que financières. Eh bien là, c'est un autre fonds de pension privé, cette fois le plus gros de Norvège, KLP, 80 milliards de dollars d'actifs. Eh bien KLP quitte les secteurs de l'alcool, des jeux d'argent et n'investira pas dans la pornographie.
Quand on choisit une guerre, c'est Carl Bert pour Dieu. La guerre passée chez nous pour être à notre goût. Car feu, c'est notre bien.
Ricard, sinon rien.
Allons.
Oui, vous savez que j'aime les vieilles pubs. Hein. Le fonds KLP vend. J'allais le dire. Le fonds KLP vend ses parts dans les groupes Carlsberg ou encore Pernod Ricard, mais quitte aussi Heineken, Moët Hennessy, car il condamne les conséquences négatives. On y vient, les conséquences négatives de la dépendance à l'alcool et aux jeux, nous dit le groupe. Et pour ce qui est de la pornographie, là, ça n'aura pas trop d'impact sur les comptes de KLP puisqu'il n'a jamais possédé de participation dans ce secteur. Tout cela vient s'ajouter à une liste noire déjà bien fournie avec des producteurs de tabac, certains fabricants d'armes et des groupes miniers ou énergétiques travaillant le charbon. La finance, l'éthique et la morale, c'est la nouvelle équation dans les salles de marché. Car oui, apparemment, miser sur des secteurs propres et vertueux, cela peut intéresser les investisseurs.
En Israël, Amélie, les droits des homosexuels font débat dans la communauté religieuse.
Le Times of Israel nous apprend d'abord que le grand rabbin de Jérusalem demande officiellement au maire de la ville d'empêcher que des drapeaux arc-en-ciel LGBT soient accrochés pour la Gay Pride, à défaut de pouvoir interdire la parade. Selon lui, ces drapeaux gâchent la ville. Ouais, ça c'est pas du tout du goût du rabbin. C'est la bande-annonce d'une précédente Gay Pride. Et dans tous les cas, vendredi, eh bien, débutera en Israël le mois des fiertés. Une cinquantaine de marches prévues, dont l'événement phare, la parade à Tel Aviv, le 9 juin, où l'on attend des centaines de milliers de participants venus du monde entier. Cette année, la fête géante pourrait prendre des accents politiques pour demander la fin des discriminations contre la communauté LGBT. Or, dans le même journal israélien, on apprend aussi aujourd'hui que lui, il a vaincu les discriminations. Daniel Atwood, dans un séminaire libéral à New York, on lui avait refusé l'ordination. Et bien à Jérusalem, Daniel Atwood vient d'être fait rabbin. Une ouverture assez exceptionnelle et un débat à couteau tiré au sein des orthodoxes.
Allez, on termine par une force surhumaine.
Le monde Afrique est allé à la rencontre de l'un des hommes les plus forts de la planète. Quoique, on ne sait pas. Mais là, on parle de force au sens premier du terme. Il s'appelle Iron Bibi. Et voilà, Iron Bibi, colosse, venu du Burkina Faso, ici à Leeds, en Angleterre. Il a été sacré le mois dernier champion du monde de log lift. Vous savez ce que c'est, Fabienne?
On lève des trucs, hein,
oui,
très lourd.
Et là, c'est un tronc d'arbre, hein, carrément, avec deux encoches dedans. Et celui-ci, eh bien, il pesait 220 kilos. Ça lui a valu son titre, 220 kilos en épaulé jeté. Ouais, on a encore du travail. Iron Bibi a 27 ans. Il mesure 1m90. Il pèse 183 kilos. C'est parce qu'on fait pas tout à fait les mêmes mensurations. Non. Aussi, son tour de bras, 66 cm. Mm-hmm. Eh bien, le monde Afrique nous raconte son jardin à Bobo Dioulasso. Presque. Dans son jardin, des pierres d'atlas, des troncs d'arbres et des pneus de tracteur à côté d'une dizaine d'haltères et de bancs de musculation. Iron Bibi est le premier Africain à remporter ce titre. Il est aussi le tout premier Burkinabé à entrer dans le Guinness Book des records. Une revanche, nous raconte-t-il, car enfant, sous son vrai nom, Cheikh Ahmed Alassane Sanou, il a souffert des moqueries.
While growing up, I was always the biggest.
Voilà ce qu'il raconte dans un clip à sa gloire. J'ai toujours été le plus costaud. Je suis le plus costaud de ma famille. Parmi tous mes amis, je suis le plus costaud. Les gens trouvaient ça drôle, ils se moquaient. Alors il a essayé tous les sports, dont le basket, sa passion, et tous les régimes aussi, car son poids l'empêchait de devenir un grand joueur. Il est parti au Canada, il a obtenu là-bas un master en administration des affaires, du lourd là aussi, un côté cerveau. Et c'est au Canada qu'il découvre donc les concours de force. Aujourd'hui, c'est une star dans son pays. Son prochain défi, vous savez ce que c'est, Fabienne ? Eh bien, c'est tirer un avion de la compagnie nationale Air Burkina, avec ses bras, hein, pour, dit-il, pour faire plaisir aux Burkinabés et mettre un peu d'extraordinaire dans leur quotidien. Et c'est vrai que ça fait plaisir à un peuple quand on tire un avion avec ses bras.
Je croyais que c'était avec ses dents, en fait, avec les
bras. On ne sait pas trop. Peut-être qu'il tentera une nouvelle technique.
Mais vide ou plein ?
Alors ça, on ira lui demander.
Voilà. Eh ben, vous reviendrez quand vous saurez. Allez, Amélie.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth, France Inter.
En Grèce, que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir dans le nord de la Grèce, dans une usine qui vous ferait peut-être penser à l'aventure des LIP dans les années 70. Là, on parle d'une usine de colle pour carrelage qui s'appelle Biomé et que les ouvriers licenciés ont reconverti en usine autogérée de savon bio. Angélique Kourounis, bonsoir.
Bonsoir.
Vous allez nous emmener, Angélique, dans cette usine et au cœur de cette aventure qui a commencé au pire moment, c'est-à-dire au tout début de la crise.
Ici, avant, on pointait nos cartes. On faisait nos 8 heures et on rentrait à la maison. Maintenant, nous avons pris notre vie en main. C'est autre chose. Tout se décide en assemblée générale, collectivement. Et c'est formidable, parce que les gens nous soutiennent pour ce que l'on fait.
Dimitri Koulsafias, ouvrier qui était là dès le début du mouvement, est fier. Il nous fait la visite de l'usine Viomé, une usine autogérée. Et aujourd'hui, c'est la fête, car l'aventure qui devait durer au mieux quelques mois dure maintenant depuis 6 ans. Viomé est devenu un symbole pour beaucoup de Grecs et pas seulement. Hervé et Claudine Ricou font régulièrement le voyage de leur Bretagne natale pour acheter des savons et les revendre au sein de leur collectif.
Un bout de savon de Viomé, c'est le produit de personnes, salariés, ouvriers, qui ont décidé de reprendre leur destin en main. Donc ça, on essaie de vendre un concept et les gens qui achètent, n'achètent pas un bout de savon, ils achètent aussi un produit derrière, parce qu'ils savent que ça soutient des gens qui font vivre un espoir.
Pour Claudine, ces savons rappellent de vieux souvenirs de militante.
Ah ben, en 68, il y a eu LIP pour la... Beaucoup suivi. Il y a eu Manu France. Là, je me souviens qu'on avait acheté des actions de Manu France. On avait dû acheter l'un des derniers vélos pour notre fils, fabriqué par Manu France. Enfin, maintenant, on suit aussi le combat de 1416, l'éléphant. Pareil, on se retrouve très souvent avec des gens qui vendent ces produits-là, pendant que nous, on vend les produits de Viomé. C'est le même genre de manifestation, le même combat.
À Thessalonique, où la fête bat son plein, Makis le Barbu, l'un des porte-parole emblématiques de ce mouvement, présente la nouvelle production qui, grande première, inclut un savon à barbe. Pour lui, ces savons sont plus que de simples produits. Ils lui permettent certes de vivre, mais lui permettent surtout de rêver.
Dans chaque commande expédiée, nous avons mis un papier pour inviter les gens à venir nous rejoindre pour cette fête et prendre part à l'évolution de nos produits. Évidemment, on voudrait que cela fasse boule de neige, que les salaires soient supérieurs à ceux sur le marché. Sans vouloir exagérer, nous avons fixé un plafond, que d'autres collègues nous rejoignent et que nous puissions travailler en collectif, que notre modèle fasse des émules et l'espoir devienne porteur.
Pour autant, malgré la réussite de l'expérience, il garde solidement les pieds sur terre.
Ce n'est pas facile. Si ça l'était, tout le monde ferait comme nous. Aujourd'hui, on exporte pas loin de 40% de notre production. Et on ne compte pas s'arrêter là. C'est surtout dans l'Union européenne et à l'extérieur de l'Union européenne.
De l'autre côté de la ville, l'ancienne PDG de l'usine, Christina Filippo, est amère. Pour elle, sans permis de vente, ses produits sont illégaux et l'usine reste une usine occupée illégalement. Mais elle en veut plus au système judiciaire et au gouvernement de Tsipras qui laisse faire qu'à ses anciens salariés.
Ce gouvernement n'a jamais mené quoi que ce soit à son terme, ni dans le bon sens, ni dans le mauvais sens, pour personne. Je n'ai pas l'impression qu'ils veulent donner une solution à ce problème. Qu'ils accomplissent enfin quelque chose. Qu'avaient-ils donc à leur promettre monts et merveilles, Tsipras ? Qu'en est-il maintenant ? Qu'ils légifèrent, qu'ils tranchent, qu'ils trouvent une solution viable pour eux, pour moi, pour les propriétaires des terrains, et qu'on n'en parle plus.
D'autres exemples d'unités autogérées ont vu le jour en Grèce durant la crise, comme par exemple le journal des rédacteurs, EFSIN, un quotidien qui tire désormais à 10 000 exemplaires par jour. Mais Viomé reste l'expérience économique de référence. Pour Nicole, chimiste, transgenre, Viomé, c'est avant tout un lieu où tout est possible.
Avant de faire mon coming out, parce que c'est ici, à la Biome, que cela s'est fait, je me suis posé la question si c'était vraiment le milieu idéal, parmi les ouvriers industriels d'une cinquantaine d'années. Pas exactement la tranche d'âge avec la plus grande ouverture d'esprit. Et pourtant, la réaction a été, dès le premier jour, celle qu'il fallait. J'ai été accepté immédiatement. Ils se sont repris réciproquement lorsqu'on se trompait sur le sexe, même quand je n'étais pas présente. Je dois dire que pour moi, cela a été formidable. Cela m'a permis dès le premier jour de me sentir bien dans ma peau.
Malgré tout, l'expérience de Viomé est très fragile. Régulièrement, les terrains de l'usine sont mis aux enchères sans succès jusqu'à présent. Les 23 ouvriers qui y travaillent redoutent une éventuelle victoire des conservateurs aux législatives d'octobre prochain. Ils affirment être prêts à tout pour résister.
Angélique Courenis en Grèce pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup. On change d'ambiance. Dirty Springfield, Son of a Preacher sur France Inter.
Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered round and started talking, Pastor Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. The Lord knows he was.
Yes, he was.
Peu importe, j'étais en train de dire à Amélie Perrier qui est en train de quitter le studio. Allez, Amélie, à demain. C'était Dusty Springfield, Son of a Preacher Man. 3, 2,
1, France Inter.
Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelons ensemble votre jury.
And the winner is...
Un jour dans le monde.
Le cinéma en VO, c'est Corinne Pellissier. Ce soir, Corinne, vous nous en aviez parlé au moment du Festival de Cannes. Vous étiez à cette montée des marches-là. Sortie mondiale maintenant ce mercredi. Karaoké, s'il vous plaît. On révise les grands tubes. Ce d'Elton John, Crocodile Rock, Saturday Night, Honky Cat, Your Song. Rocketman, donc, qui sort ce mercredi. Bande-annonce.
It's a little bit funny. This feeling inside.
So
Started as a fat boy from nowhere. Get to be a soul man.
Gotta kill the person you were born to be in order to become the person you wanna be.
I'm thinking of changing my name to Elton.
You can be the best-selling artist in America if you desire.
I was trying to do something bold.
Buy yourself something flashy.
Can you even play the piano in those?
Let them know who you are.
Et c'est vrai que ça donne envie de chanter en même temps qu'Elton John. Alors ce sera difficile aussi, Corinne, forcément, de pas comparer ce Rocketman avec son grand frère récompensé aux Oscars, Bohemian Rhapsody, qui lui était consacré à Freddie Mercury.
Évidemment, on ne va pas s'empêcher de les comparer. Deux films musicaux qui évoquent tous les deux la vie d'une rockstar charismatique, signant en plus du même réalisateur et qui sortent à un an d'écart. Dexter Fletcher est évidemment le premier à se mettre la pression sur le succès de Bohemian Rhapsody avec ses millions d'entrées partout dans le monde et ses quatre récompenses aux Oscars. Mais qu'on se le dise tout de suite, ces deux films n'ont absolument rien à voir.
Je comprends tout à fait pourquoi les gens ont aimé Bohemian Rhapsody. Le moment où Rami Malek est sur la scène du Live Aid avec le public qui hurle son nom, c'est fort. Et dans ce nouveau film, c'est encore une rockstar, mais la ressemblance s'arrête là. Car pour moi, Rocketman reflète vraiment la vie qu'a eu Elton John. Il aurait pu se faire plaisir à inventer des moments plus glorieux. Je suis le plus grand, le plus beau, le plus fort, mais on sait tous que ce serait faux. C'est pour cette raison que je devais filmer aussi l'isolement et la solitude. Et quand il a vu le film, il m'a dit « On s'en fout que ça n'en rapporte pas un clou, car c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. »
Alors, Dexter Fletcher, qui avait remplacé au pied levé Bryan Singer, le réalisateur initial de Bohemian Rhapsody, a eu cette fois une latitude totale, c'est bien son film, pour développer donc l'univers de son personnage. Et ça, Corinne, vous dites que vous, ça se voit à l'écran.
Oui, avec une scène d'ouverture tout sauf tiède qui donne le ton. Elton John dans un costume flamboyant en pleine réunion des alcooliques anonymes à New York. Il vient de quitter la scène du Madison Square Garden où il devait se produire pour aller à la place vider son sac. Moi, Elton John, drogué, alcoolique, boulimique, accro au sexe. Aucune volonté ici d'édulcorer. Dexter Fletcher a vraiment pris le parti de brosser le portrait émouvant d'un homme blessé, souvent très seul et magnifiquement incarné surtout par le comédien Taron Egerton que l'on a découvert entre autres dans la saga Kingsman. La ressemblance physique, évidemment, est un peu moins frappante que dans le cas de Rami Malek avec Freddie Mercury. Mais ce n'est pas du tout gênant pour le déroulement de l'histoire. Et surtout, on l'oublie très vite. Le comédien a vraiment su capter toute la démesure, la fantaisie, l'énergie d'Elton John. Et puis surtout, c'est lui qui chante. On ne lui connaissait pas ce talent. Et le résultat est bluffant.
She packed my bags last night, pre-flight.
Évidemment, Elton ne l'aurait pas tout à fait chanté comme ça. Et d'ailleurs, on aurait pu utiliser sa voix, mais ça n'aurait plus été le même film. Et moi, je voulais vraiment chanter. C'est ce qui m'a fait accepter le projet. J'espère que le public va adhérer, comme Elton. Le plus important pour moi, c'est que le résultat lui fasse plaisir, car il voulait que le film raconte la vérité. Il a vécu des moments très durs. Il a été accro à la cocaïne, à l'alcool, à la nourriture, et notre film montre tout ça.
Allez, Rocketman, donc, c'est au cinéma ce mercredi. À vous de juger.
Le 18-20, Fabienne Synthèse. Sur France Inter.
Le Monde à l'envers et Jean Marfour. Jean-Marc, en l'espace de 4 jours, 7 Français ont donc été condamnés à mort en Irak pour appartenance à l'État islamique. Un sujet qui embarrasse le gouvernement français, mal à l'aise évidemment avec la peine de mort. Mais vous, vous nous dites que dans cette affaire, c'est surtout Paris qui est incohérent et c'est votre monde à l'envers.
Oui, il faut revenir en arrière de quelques semaines pour comprendre. Fin janvier, on a choisi, passez-moi l'expression, de se débarrasser de la patate chaude. Comme la France ne veut pas se retrouver avec ses djihadistes encombrants sur les bras, elle a fait le choix de les refilés aux autorités irakiennes. Nous parlons précisément de 11 hommes, tous transférés fin janvier, début février, des mains des Kurdes syriens aux autorités irakiennes. Et ce transfert, cette extradition, parce que c'en est une, n'aurait pas pu se faire sans l'aval de Paris. Raisonnement de la France, il peut se défendre. Nous préférons les voir jugés sur place, là où ils ont semé la terreur. Sauf que la loi irakienne est connue de tous. En cas de terrorisme avéré, la peine encourue, c'est la mort. Rien d'étonnant donc à ce que la cour à Bagdad prononce depuis dimanche des peines capitales. Et maintenant, Paris nous dit « Ah ben non, on est contre la peine de mort. Par principe, c'est une position officielle française, donc on va essayer d'empêcher l'application de la peine. » Hier matin, invité sur France Inter, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, semblait trouver tout cela très compatible. pour des procès en Irak, mais contre la peine de mort, pour la souveraineté judiciaire de l'Irak, mais contre les sentences qui y sont prononcées. Tous les diplomates français ne partagent pas l'avis du ministre parce que dès le transfert de ces djihadistes à Bagdad, on savait pertinemment qu'ils allaient risquer la pendaison. C'est vrai pour les 7 qui sont déjà passés en procès depuis dimanche et aussi pour les 4 restants qui vont comparaître d'ici à lundi prochain. Sans compter que ça peut en concerner des centaines d'autres actuellement détenus par les Kurdes syriens et qui aimeraient bien s'en débarrasser.
Alors l'autre controverse, Jean-Marc, porte sur le caractère expéditif et peu équitable de la justice irakienne.
Alors une mise au point d'abord, il ne s'agit évidemment pas ici de défendre ces terroristes avec une sorte de, je ne sais pas moi, de compassion aux droits de l'homiste et naïve, chacun mesure pleinement leur dangerosité. Non, il s'agit juste de s'interroger sur les risques d'une justice inéquitable. Et là encore, on s'en parie embarrassé. Cet après-midi, devant l'Assemblée, Jean-Yves Le Drian a martelé que les droits de la défense étaient assurés à Bagdad, que le consulat de France apportait son assistance aux prévenus, etc. Petit souci, les témoignages sur place disent en grande partie l'inverse. Les auditions durent 2 à 3 heures devant la cour, là où dans un procès pour terrorisme en France, ça durerait plutôt 2 ou 3 semaines. Les avocats sont commis d'office, ils découvrent les dossiers des accusés au dernier moment. Les actes d'accusation comportent des montages vidéo qui relèvent en partie de la mise en scène. Pour l'un des accusés au moins, l'existence de crimes commis sur le sol irakien semble douteux. Plusieurs ONG dénoncent un simulacre de justice. Alors, on a le droit de se dire, après tout, quelle importance, l'essentiel, c'est d'empêcher ces gens de nuire une bonne fois pour toutes. Ça se défend. Sauf que l'histoire récente le démontre, les parodies de justice peuvent être lourdes de conséquences, elles nourrissent la relève chez les extrémistes. Sur le mode, vous voyez bien, les démocraties ne sont pas ce qu'elles disent être. Il suffit de songer aux conséquences de Guantanamo, évidemment, ou comment les mauvais traitements subis dans le camp américain ont nourri le discours des djihadistes.
Donc ce que vous dites, Jean-Marc, c'est qu'il aurait mieux valu les juger en France.
Je ne sais pas, honnêtement. On aurait pu imaginer aussi une justice internationale, avec des tribunaux internationaux. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une sorte de refus d'obstacle de la France sur le sujet. Et répétons-le, dire ça, c'est pas du tout une façon de s'apitoyer sur le sort de ces terroristes. Le gouvernement français, on l'a compris, ne veut surtout pas avoir à gérer les procès de ces djihadistes français. Pourtant, il existe des poursuites officielles, des mandats d'arrêt internationaux émis par la justice française contre plusieurs d'entre eux, Kevin Gonneau, Léonard Lopez. Et pour cause, plusieurs sont soupçonnés de liens, les uns avec les frères Klein, les autres avec le réseau de Lunel, etc. Et puis surtout, s'interdire des procès en France, c'est s'interdire de comprendre pourquoi des jeunes Français de Toulouse, de Roubaix, de Lyon, de Paris ont basculé dans le terrorisme. S'interdire de comprendre aussi comment fonctionnent les réseaux qui leur ont permis de rejoindre ces groupes djihadistes, c'est refuser de regarder en face une réalité qui est bien française.
Jean-Marc Fourdan, Un jour dans le monde, tous les jours. Merci beaucoup. On reste ensemble pour le 18-20. La suite, c'est Sébastien Paour et puis le téléphone sonne.